Chapitre 9. Monsieur Minxit se prépare à la guerre. Or, celui-ci avait été informé, je ne sais par qui, par la renommée sans doute qui se mêle de tout, que Benjamin était retenu prisonnier à Saint-Pierre-du-Mont. Il ne trouva point de meilleur moyen pour délivrer son ami que de prendre d'assaut la gentilhommière du marquis et de la raser ensuite. Oh, vous qui riez, trouvez-moi dans l'histoire une guerre plus juste. Là où le gouvernement ne sait pas faire respecter les lois, il faut bien que les citoyens se fassent justice eux-mêmes. La cour de M. Minxit ressemblait à une place d'armes. La musique, à cheval et armée de fusils de toutes sortes, était déjà rangée en bataille. Le vieux sergent, entré depuis peu au service du docteur, avait pris le commandement de ce corps d'élite. Du milieu de ses rangs s'élevait un ample drapeau fait avec un rideau de croisée, sur lequel M. Minxit avait écrit, en lettres moulées afin que personne n'en ignorât, « La liberté de Benjamin ou les oreilles de M. de Cambise ». C'était là son ultimatum. En seconde ligne venait l'infanterie, représentée par 5 à 6 valets de ferme, portant leurs pioches sur leur épaule, et 4 couvreurs de l'endroit munis chacun de leur échelle. La calèche figurait les bagages. Elle était chargée de fascines pour combler les fossés du château que le temps avait comblé lui-même en plusieurs endroits. Mais M. Banksy tenait à faire régulièrement les choses. Il avait eu en outre la précaution de mettre dans une des poches de la voiture sa trousse et un gros flacon de rhum. Le belliqueux docteur, surmonté d'un chapeau à plumes et une épée nue à la main, caracolait autour de sa troupe et hâtait d'une voix tonnante les préparatifs du départ. C'est l'usage qu'avant d'entrer en campagne, une armée soit haranguée. M. Banksit n'était pas homme à manquer à cette formalité. Or, voici ce qu'il dit à ses soldats. « Soldats, je ne vous dirai point que l'Europe a les yeux fixés sur vous, que vos noms passeront à la postérité, qu'ils seront burinés au temple de la gloire, etc., etc., parce que tout cela, c'est cette graine vide et inféconde qu'on jette au niais. Mais voici ce qu'il en est. Dans toutes les guerres, les soldats combattent au profit du souverain. Ils n'ont pas même, la plupart du temps, l'avantage de savoir pourquoi ils meurent. Mais vous, c'est dans votre intérêt, et c'est dans l'intérêt de vos femmes et de vos enfants, ceux qui en ont, que vous allez combattre. Monsieur Benjamin, que vous avez tous l'honneur de connaître, doit devenir mon gendre. En cette qualité, il régnera avec moi sur vous, et quand je n'y serai plus, c'est lui qui sera votre maître. Il vous aura une obligation infinie des dangers que vous allez courir pour lui, et il vous en récompensera généreusement. Mais ce n'est pas seulement pour rendre la liberté à mon gendre que vous avez pris les armes. Notre expédition aura encore pour résultat de délivrer le pays d'un tyran qui l'opprime, qui écrase vos blés, qui vous bat quand il vous rencontre, et qui est très malhonnête avec vos femmes. Il suffit à un Français d'une bonne raison pour combattre courageusement. Vous, vous en avez 2, donc vous devez être invincible. Les morts seront enterrés décemment à mes frais, et les blessés seront soignés dans ma maison. Vive Monsieur Benjamin Latterie! Mort à Cambise! Destruction à sa gentilhommière! Bravo! Monsieur Banksit, dit mon oncle, qui arrivait en vaincu par une porte de derrière. Oh, voilà une harangue bien touchée! Si vous l'eussiez faite en latin, j'aurais cru que vous l'aviez pillée dans Tite-Liv. À la vue de mon oncle, il se fit un hurrah universel dans l'armée. M. Banksit commanda en place repos et conduisit Benjamin dans sa salle à manger. Celui-ci lui rendit compte de son aventure de la manière la plus circonstanciée et avec une fidélité que n'ont pas toujours les hommes d'État lorsqu'ils écrivent leurs mémoires. M. Banksit était horriblement exaspéré de l'insulte faite à son gendre et il en grinça de tous ses chicots. D'abord, il ne put s'exprimer que par des imprécations, mais quand son imaginée indignation se fut un peu calmée, Benjamin, dit-il, tu es plus ingambe, tu vas prendre le commandement de l'armée, et nous allons marcher contre le château de Cambyse. Il faut que là où étaient ces tourelles, il pousse des orties et du chien dedans. Si cela vous convient, dit mon oncle, nous raserons jusqu'à la montagne de Saint-Pierre-du-Mont. Mais, sauf le respect que je dois à votre avis, je crois que nous devons agir de ruse. Nous escaladerons nuitamment les murailles du château. Nous nous emparerons de Cambyse et de tous ces laquais plongés dans le vin et le sommeil, comme dit Virgile. Il faudra qu'ils nous embrassent tous. Voilà qui est bien pensé, répondit M. Maxit. Oh, nous avons une bonne lieue et demie pour arriver devant la place, et il fera nuit dans une heure. Cours embrasser ma fille et nous partons. Un instant, dit mon oncle. Diable, mais quand vous y allez, j'ai rien pris de la journée, moi. Il me conviendrait assez de déjeuner avant de partir. Alors, dit M. Maxit, je vais faire rompre les rangs, et on distribuera une ration de vin à nos soldats pour les tenir en haleine. C'est cela, répondit mon oncle. Ils auront le temps de s'achever pendant que je vais prendre ma réfection. Heureusement pour la gentilhommière du marquis, l'avocat page, qui revenait d'une expertise, vint demander à dîner à M. Minxit. « Vous arrivez bien, M. Page, lui dit le divinique docteur. Je vais vous enrôler dans notre expédition. »« Quelle expédition ?» dit Page, qui n'avait pas étudié le droit pour faire la guerre. Alors mon oncle lui raconta son aventure et la manière dont il allait se venger. « Prenez-y garde, dit l'avocat Page. La chose est plus grave que vous ne le pensez. D'abord, quant au succès, espérez-vous, avec 7 à 8 hommes éclopés, venir à bout d'une garnison de 30 domestiques commandés par un lieutenant de mousquetaires ?»« Mais 20 hommes et tous valides, monsieur l'avocat, répondit monsieur Minxit. Soit, dit froidement l'avocat Page. Mais le château de M. de Cambyse est entouré de murailles. Ces murailles tomberont-elles comme celles de Jéricho au son des cymbales et de la grosse caisse? Je suppose toutefois que vous preniez d'assaut le château du marquis. Ce sera sans doute un beau fait d'armes, mais cet exploit n'est pas de nature à vous faire obtenir la croix de Saint-Louis. Ou vous ne voyez qu'une bonne plaisanterie et de légitimes représailles? La justice y verra, elle, un bris de porte, une escalade, une violation de domicile, une attaque de nuit, et tout cela encore contre un marquis. La moindre de ces choses entraîne la peine des galères, je vous en préviens. Il faudra donc qu'après votre victoire, vous vous résigniez à abandonner le pays. Et cela pour quel résultat? Pour vous faire donner la collade par un marquis. Quand on peut se venger sans risque et sans dommage, j'admets la vengeance. Mais se venger à son propre détriment, c'est une chose ridicule, c'est un acte de folie. Tu dis, Benjamin, qu'on t'a insulté, mais qu'est-ce que c'est donc qu'une insulte? Presque toujours un acte de brutalité commis par le plus fort au préjudice du plus faible. Or, comment la brutalité d'un autre peut-elle porter atteinte à ton honneur? Est-ce ta faute à toi si cet homme est un misérable sauvage qui ne connaît d'autre droit que la force? Es-tu responsable de ces lâchetés? Si une tuile te tombait sur la tête, courrais-tu sus pour en briser les morceaux? Te croirais-tu insulté par un chien qui t'aurait mordu? Et lui proposerais-tu un combat singulier, comme celui du caniche de Montargis avec l'assassin de son maître? S'il insulte déshonore quelqu'un, c'est l'insultant. Tous les honnêtes gens sont du parti de l'insulter. Quand un boucher maltraite un mouton, dis-moi, est-ce contre le mouton qu'on s'indigne? Si le mal que vous voulez faire à votre insulteur vous guérissait de celui qu'il vous a fait, je concevrais votre ardeur de vengeance. Mais si vous êtes le plus faible, vous vous attirez de nouveaux sévices. Si au contraire vous êtes le plus fort, vous avez encore pour vous la peine de battre votre adversaire. Ainsi, l'homme qui se venge joue toujours le rôle de dupe. Le précepte de Jésus-Christ qui nous ordonne de pardonner à ceux qui nous ont offensés est non seulement un beau prétexte de morale, mais encore un bon conseil. Eh bien, de tout cela, je conclus que tu feras bien, mon cher Benjamin, d'oublier l'honneur que t'a fait le marquis, et de boire avec nous jusqu'à la nuit pour te distraire de ce souvenir. Pour moi, je ne suis pas du tout de l'avis du cousin Page. Il est toujours agréable et quelquefois utile de rendre loyalement le mal qu'on nous a fait. C'est une leçon qu'on donne aux méchants. Il est bon qu'ils sachent que c'est à ces risques et périls qu'ils se livrent à ces instincts malfaisants. Laisser aller la vipère qui vous a mordu quand on peut l'écraser et pardonner aux méchants, c'est la même chose. La générosité en cette occasion est non seulement une niaiserie, c'est encore un tort envers la société. Si Jésus-Christ a dit « pardonnez à vos ennemis », Saint-Pierre a coupé l'oreille à Malchus, cela se compense. Mon oncle était très entêté, entêté comme s'il eût été le fils d'un cheval ou d'une ânesse. Et du reste, l'entêtement est un vice héréditaire dans notre famille. Cependant, il convint que l'avocat Page avait raison. « Je crois, dit M. Manxit, que vous devez très bien remettre votre épée dans le fourreau et votre chapeau à plumes dans son étui. On ne doit faire la guerre que pour des motifs extrêmement graves. Et le roi, qui entraîne sans nécessité une partie de son peuple sur ces vastes abattoirs qu'on appelle des champs de bataille, est un assassin. Vous seriez peut-être flatté, monsieur Manxit, de prendre place parmi les héros. Mais la gloire d'un général, qu'est-ce que c'est? Des cités en débris, des villages en cendres, des campagnes ravagées, des femmes livrées à la brutalité du soldat, des enfants emmenés captifs, des tonneaux de vin défoncés dans les caves. Vous n'avez donc pas lui fait de l'eau, monsieur Manxit. Tout cela est atroce, et je frémis rien que d'y penser. Mais que me racontes-tu là? Répondit monsieur Manxit. Il s'agit de pas que de quelques coups de pioche à donner à de vieilles murailles toutes cassées. Eh bien, dit mon oncle, pourquoi nous donner la peine de les abattre lorsque sont si bonne volonté de tomber? Croyez-moi, rendez la paix à ce beau pays. Je serais un lâche et un infâme si je souffrais que, pour venger une injure qui m'est toute personnelle, vous vous exposiez aux dangers multiples qui doivent résulter de notre expédition. Mais, dit M. Manxit, c'est que j'ai aussi, moi, des injures personnelles à venger sur ce hobereau. Il m'a envoyé, par dérision, de l'urine de cheval, à consulter pour de l'urine humaine. Oh, belle raison pour encourir 10 ans de galère, non, monsieur Manxit. La postérité ne vous absoudrait pas. Si vous ne songez à vous, songez à votre fille, à votre Arabelle chérie. Quel plaisir aurait-elle à faire de si bons fromages à la crème quand vous ne seriez plus là pour les manger? Cette invocation au sentiment paternel du vieux docteur produisit son effet. « Au moins, dit-il, tu me promets qu'il sera fait justice de l'insolence de M. de Cambise, car tu es mon gendre, et dès lors, en fait d'honneur, nous sommes solidaires l'un pour l'autre. »« Oh, pour cela, soyez tranquille, M. Manxit. Mon œil sera toujours ouvert sur le marquis. » Je le guetterai avec l'attention patiente d'un chat qui guette une souris. Un jour ou l'autre, je le surprendrai seul et sans escorte. Alors, il faudra qu'il croise sa noble épée avec ma rapière, ou bien je le bâtonne à la société. Tenez, je ne puis jurer, comme les anciens impreux, de laisser croître ma barbe ou de manger du pain dur jusqu'à ce que je me sois vengé. Parce que l'une de ces choses ne conviendrait pas dans notre profession, et que l'autre est contraire à mon tempérament. Mais je jure de ne devenir votre gendre que quand l'insulte qui m'a été faite aura reçu une éclatante réparation. « Oh non pas, répondit M. Manxit, tu vas trop loin, Benjamin. Je n'accepte pas ce serment impie. Il faut au contraire que tu épouses ma fille. » Tu te vengeras aussi bien après qu'auparavant. Mais y pensez-vous, monsieur Manxit? Du moment que je dois me battre à mort avec le marquis, ma vie ne m'appartient plus. je ne puis me permettre d'épouser votre fille pour la laisser veuve, peut-être le lendemain de ses noces. » Le bon docteur essaya d'ébranler la résolution de mon oncle. Mais, voyant qu'il ne pouvait y parvenir, il se décida à aller changer de costume et à licencier son armée. Ainsi finit cette grande expédition, qui coûta peu de sang à l'humanité, mais beaucoup de vin à M. Minxite. Comment mon oncle se vit embrassé par le marquis. Benjamin avait couché à Corvol. Le lendemain, comme il sortait de la maison avec M. Minxite, la première personne qu'ils aperçurent, ce fut Fata. Celui-ci, qui ne se sentait pas la conscience nette, aurait autant aimé rencontrer deux grands loups sur sa route que mon oncle et M. Minxite. Cependant, comme il ne pouvait s'esquiver, il se décida à faire contre fortune bon cœur. Il vint à mon oncle. « Bonjour, M. Rattray, comment vous portez-vous, honorable M. Minxite ?»« Eh bien, M. Benjamin, comment vous en êtes-vous tiré avec notre Gessler ?» Oh, j'avais une peur terrible qui vous fit un mauvais parti, et j'en venais pas fermer l'œil de la nuit. Fata, dit M. Minxite, garde vos obséquiosités pour le marquis quand vous le rencontrerez. Est-il vrai que vous ayez dit à M. de Cambise que vous ne connaissiez plus Benjamin? Oh, je me souviens pas de cela, mon bon M. Minxite. Est-il vrai que vous ayez dit au même marquis que je n'étais pas un homme à voir? Oh, je n'ai pas pu dire cela, mon cher monsieur Minxite. Vous savez combien je vous estime, mon ami. J'affirme sur l'honneur qu'il a dit tout cela, fit mon oncle avec le sang-froid glacial d'un juge. C'est bien, dit monsieur Minxite. Alors, nous allons régler son compte. Fata, dit Benjamin, je vous préviens que monsieur Minxite veut vous fustiger. Et tenez, voilà ma houssine, pour l'honneur du corps, défendez-vous. Un médecin ne peut se laisser rosser comme un âne de 10 écus. Mais j'ai la loi pour moi, dit Fata. S'il me frappe, chaque coup qu'il me donnera lui coûtera cher. Je sacrifie 1000 francs, dit M. Minxite, faisant siffler sa cravache. Tiens, Fata Fatorum, destin, providence des anciens. Tiens, tiens, tiens. Les paysans s'étaient mis sur le seuil de leur porte pour voir fustiger Bata. Car, je le dis à la honte de notre pauvre humanité, rien n'est dramatique comme un homme qu'on maltraite. « Monsieur, s'écriait Fata, je me mets sous votre protection. » Mais personne ne quitta sa place, car M. Minxite, par la considération dont il jouissait, avait à peu près droit de basse justice dans le village. « Alors, poursuivit l'infortuné Fata, je vous prends à témoin des violences exercées sur ma personne. Je suis docteur en médecine. »« Attends, dit M. Minxite, je vais frapper plus fort, afin que ceux qui ne voient pas les coups les entendent, et que tu aies des cicatrices à montrer au bailli. » Et en effet, il frappa plus fort, le féroce roturier qu'il était. « Sois tranquille, Minxite, dit Fata en s'éloignant. Tu auras affaire à M. de Cambise. Il souffrira pas qu'on me maltraite parce que je le salue. Tu diras à Cambise, dit M. Minxite, que je me moque de lui, que ma maison est plus solide que son château, et que s'il veut venir sur le plateau de Fertillan avec ses gens, je suis son homme. » Disons de suite, pour en finir avec cette affaire, que Fata fit citer M. Minxite par devant le bailli, pour répondre des violences commises sur sa personne, mais qu'il ne put trouver aucun témoin qui déposât du fait, bien que la chose se fût passée en présence d'une centaine d'individus. Lorsque mon oncle fut arrivé à Clamcy, sa sœur lui remit une lettre timbrée de Paris de la teneur suivante. « Monsieur Rattray, je sais de bonne part que vous allez épouser Mademoiselle Minxite. Je vous le défends expressément. Vicomte de Pontcassé. » Mon oncle envoya Gaspard lui quérir une feuille de papier grand raisin. Il prit l'encrier de Machecourt et répondit de suite à cette missive. « Monsieur le comte, vous pouvez aller... » Point de suspension. Agréez l'assurance des sentiments respectueux avec lesquels je l'honore d'être votre humble et dévoué serviteur, B. Rattray. Où mon oncle voulait-il envoyer son vicomte? Je ne le sais. J'ai fait d'inutiles recherches pour pénétrer le mystère de cette réticence. Mais je vous ai toujours donné une idée de la fermeté, de la netteté, du nerf et de la précision de son style quand il voulait se donner la peine d'écrire. Cependant, mon oncle n'avait pas renoncé à ses idées de vengeance, tant s'en faut. Le vendredi suivant, après avoir visité ses malades, il fit aiguiser son épée et mit par-dessus son habit rouge la houppelande de Mâchecourt. Comme il ne voulait point faire le sacrifice de sa queue et qu'il ne pouvait la mettre dans sa poche, il la cacha sous une vieille perruque et s'en alla, ainsi déguisé, et observer son marquis. Il établit son quartier général dans une espèce de cabaret situé sur le bord de la route de Clamcy, vis-à-vis du château de M. de Cambise. Le maître du logis venait de se casser une jambe. Mon oncle, toujours prompt à venir en aide à son prochain quand il était fracturé, déclina sa profession et offrit les secours de son art aux patients. Il fut autorisé par sa famille, désolé, à rétablir en leur lieu et place les deux fragments du tibia cassé. Ce qu'il fit prestement, et à la grande admiration des deux grands laquais à la livrée de M. de Cambise, qui buvait dans le cabaret. Mon oncle, quand son opération fut terminée, alla s'établir dans une haute chambre de l'auberge, droit au-dessus du bouchon, et il se mit à observer le château avec une longue vue qu'il avait prise chez M. Minxit. Il y avait une bonne heure qu'il se morfondait là, et il n'avait encore rien aperçu dont il put tirer profit, lorsqu'il vit un laquais de M. de Cambise descendre ventre à terre la montagne. Cet homme descendit à la porte du cabaret et demanda si le médecin y était encore. Sur la réponse affirmative de la servante, il monta à la chambre de mon oncle et, l'abordant chapeau bas, il le pria de venir donner ses soins à M. le marquis de Cambise, qui venait d'avaler une arête. Mon oncle fut d'abord tenté de refuser, mais il réfléchit que cette circonstance pouvait favoriser ses projets de vengeance, et il se décida à suivre le domestique. Celui-ci l'introduisit dans la chambre du marquis. M. de Cambise était dans son fauteuil, les coudes sur ses genoux, et il semblait en proie à une violente inquiétude. La marquise, jolie brune de 25 ans, se tenait à côté de lui et cherchait à le rassurer. À l'arrivée de mon oncle, le marquis leva la tête et lui dit « J'ai avalé en dînant une arête qui s'est clouée à mon gosier. Alors j'ai su que vous étiez dans le village et je vous ai fait appeler, quoique je n'ai pas l'honneur de vous connaître. » Persuadé que vous ne me refuseriez pas votre secours. « Nous le devons à tout le monde, » répondit mon oncle avec un sang-froid glacial. « Aux riches aussi bien qu'aux pauvres, aux gentilshommes aussi bien qu'aux paysans, aux méchants aussi bien qu'aux justes. »« Cet homme est frais, » dit le marquis à sa femme, « faites-le sortir. »« Mais, » dit la marquise, « vous savez bien qu'aucun médecin ne veut se hasarder de venir au château. » Puisque vous avez celui-ci, sachez au moins le garder. » Le marquis se rendit à cet avis. Benjamin examina la gorge du malade et secoua la tête d'un air d'inquiétude. Le marquis pâlit. « Qu'est-ce donc ? » dit-il. « Mal serait-il encore plus grave que nous ne l'aurions cru ?»« Oh, je ne sais ce que vous avez cru, » répondit Benjamin d'une voix solennelle, « mais... le mal serait en effet très grave si on ne prenait de suite des mesures nécessaires pour le combattre. Vous avez avalé une arête de saumon, c'est une arête de la queue, là où elles sont les plus vénéneuses. « Mais cela est vrai, » dit la marquise étonnée, « mais comment avez-vous découvert cela ?»« Par l'inspection de la gorge, madame. » Le fait est qu'il l'avait reconnue par un moyen tout naturel. En passant devant la salle à manger dont la porte était ouverte, Il avait vu sur la table un saumon dont le tronçon de la queue avait seul été enlevé, et il en avait conclu que c'était à la queue de ce poisson qu'avait appartenu l'arête avalée. « Mais nous n'avons jamais ouï dire, fit le marquis d'une voix tremblante d'effroi, que les arêtes de saumon fussent vénéneuses. « Oh, ça n'empêche pas qu'elles le soient beaucoup, dit Benjamin. Et je serais fâché que madame la marquise en doutât, car je serais obligé de la contredire. Les arêtes du saumon contiennent, comme les feuilles du mancenillier, une substance si âcre, si corrosive, que si cette arête restait une demi-heure de plus dans le gosier de monsieur le marquis, elle produirait une inflammation dont je ne pourrais me rendre maître, et l'opération deviendrait impossible. « Ah, mais en ce cas, docteur, opérez tout de suite, je vous en supplie, » dit le marquis, de plus en plus effrayé. « Un instant, » dit mon oncle, « la chose ne peut aller si vite que vous le désirez. Il y a une petite formalité à remplir. » Mais remplissez-la donc bien vite et commencez. C'est que cette formalité vous regarde. C'est vous seul qui devez l'accomplir. Mais dis-moi donc au moins en quoi elle consiste, chirurgien de malheur. Peux-tu me laisser mourir la faute d'agir ? J'hésite encore, poursuivit Benjamin avec lenteur. Comment hasarder une proposition comme celle que j'ai à vous faire ? Avec un marquis, avec un homme qui descend droite ligne de Cambyse, roi d'Égypte. Je crois, misérable, que tu profites de ma position pour te moquer de moi, s'écria le marquis, revenant à la violence de son caractère. Parle-moi du monde, répondit froidement Benjamin. Vous souvenez-vous d'un homme que vous fîtes il y a 3 mois, traîné dans votre château par vos sbires, parce qu'il ne vous avait point salué et auquel vous fîtes l'affront le plus sanglant qu'un homme puisse faire à un autre homme ? Un homme à qui j'ai fait baiser. Ah, en effet, c'est toi ! Je te reconnais à tes 5 pieds 10 pouces. Eh bien, l'homme aux 5 pieds 10 pouces, cet homme que vous regardiez comme un insecte, comme un grain de poussière que vous ne rencontreriez jamais que sous vos pieds, vous demande maintenant réparation de l'insulte que vous lui avez faite. Eh mon Dieu, je ne demande pas mieux. Allez, fixe la somme à laquelle tu évalues ton honneur. Je m'en vais te la faire compter de suite. Mais te crois-tu donc, marquis de Cambyse, assez riche pour payer l'honneur d'un honnête homme ? Me prends-tu pour un robin ? Crois-tu que je me fais insulter pour de l'argent ? Non, 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 c'est une réparation d'honneur qu'il me faut. Une réparation d'honneur, entends-tu, marquis de Cambyse ? Eh bien, soit, dit monsieur de Cambyse, dont les yeux étaient attachés sur l'aiguille de la pendule et qui voyait avec effroi s'enfuir la fatale demi-heure. Je vais déclarer devant madame la marquise, je déclarerai par écrit, si vous le voulez, que vous êtes un homme d'honneur et que j'ai eu le tort de vous avoir offensé. Diable, tu as bientôt payé tes dettes. Crois-tu donc, quand on a insulté un honnête homme, qu'il suffise de reconnaître qu'on a eu tort et que tout soit réparé ? Demain, tu rirais bien avec ta société de hombreaux, du niais qui se serait contenté de cette apparence de satisfaction. Non, non, c'est la peine du talion qu'il faut que tu subisses. Le faible d'hier est devenu le fort d'aujourd'hui. Le ver s'est changé en serpent. Tu n'échapperas pas à ma justice comme tu échappes à celle du bailli. Il n'est aucune protection qui puisse te défendre contre moi. Je t'ai embrassé, il faut que tu m'embrasses. Mais as-tu donc oublié, malheureux, que je suis le marquis de Cambyse ? Mais tu as bien oublié, toi, Benjamin Rattray. L'insulte, c'est comme Dieu. Tous les hommes sont égaux devant elle. Il n'y a ni grand insulteur, ni petit insulté. Laquais, dit le mari, marquis auquel la colère avait fait oublier le prétendu danger qu'il courait, conduisez cet homme dans la cour, et qu'on lui donne 100 coups de fouet, je veux l'entendre crier d'ici. Bien, dit mon oncle, mais dans 10 minutes, l'opération sera devenue impossible, et dans 1 heure, vous serez mort. Et ne puis-je donc envoyer quérir à Varzy un chirurgien par mon coureur? Bon, si votre coureur trouve le chirurgien chez lui, celui-ci arrivera juste pour vous voir mourir et donner ses soins à madame la marquise.
Mais il n'est pas possible, dit la marquise, que vous restiez inflexible. N'y a-t-il donc pas plus de plaisir à pardonner qu'à se venger?
Oh, madame, reprit Benjamin en s'inclinant avec grâce, je vous prie de croire que si c'était de vous que j'eusse reçu une pareille insulte, je ne vous garderais pas rancune. Madame de Cambis sourit et, comprenant qu'il n'y avait rien à gagner avec mon oncle, elle engagea elle-même son mari à se soumettre à la nécessité et lui fit observer qu'il n'avait plus que 5 minutes pour se décider. Le marquis, vaincu par la terreur, fit signe à deux laquais qui étaient dans sa chambre de se retirer. « Non pas, dit l'inflexible Benjamin, c'est pas ainsi que j'entends. Laquais, vous allez au contraire avertir les gens de M. de Cambise de se rendre ici de sa part. Ils ont été témoins de l'insulte. Il faut qu'ils le soient de la réparation. Madame la marquise seule a le droit de se retirer. » Le marquis jeta un coup d'œil sur la pendule et vit qu'il ne lui restait plus que 3 minutes. Comme le laquais ne bougeait pas, « Bon, allez donc vite, Pierre, dit-il, et exécutez les ordres de monsieur. Ne voyez-vous pas qu'il est le seul maître ici, pour le moment ?» Les domestiques arrivèrent l'un après l'autre. Il ne manquait plus que l'intendant. Mais Benjamin, rigoureux jusqu'au bout, ne voulut pas commencer avant qu'il ne fût présent. « Bien, dit Benjamin, maintenant vous voilà quitte, et tout est oublié. Je vais maintenant m'occuper en conscience de votre gorge. » Il fit l'extraction de l'arête très vite et très bien et la remit entre les mains du marquis. Tandis que celui-ci l'examinait avec curiosité, « Il faut, dit-il, que je vous donne de l'air. » Il ouvrit une fenêtre, s'élança dans la cour et en 2 ou 3 enjambées de ses grandes jambes, il eut gagné la porte cochère. Tandis qu'il descendait en courant la montagne, le marquis était à une fenêtre qui s'écriait « Arrêtez, monsieur Benjamin Rattray, de grâce. Venez recevoir mes remerciements et ceux de madame la marquise. Il faut bien que je vous paye votre opération. » Mais Benjamin n'était pas homme à se laisser prendre de ces belles paroles. Au bas de la colline, il rencontra le coureur du marquis. Landry, lui dit-il, mes compliments à madame la marquise et rassurez monsieur de Cambise à l'égard des arêtes de saumon. Elles ne sont pas plus vénéneuses que celles du brochet. C'est bon, il ne faut pas les avaler, qu'il se tienne la gorge enveloppée d'un cataplasme, mais dans 2 ou 3 jours, il sera guéri. Aussitôt que mon oncle fut hors des atteintes du marquis, il tourna à droite, traversa la prairie de Flaise avec les 1000 ruisselets dont elle est entrecoupée, et se rendit à Convol. Il voulait régaler M. Minxit de la primeur de son expédition. Il aperçut de loin qui était devant sa porte et agitant son mouchoir en signe de triomphe. « Nous sommes vengés » s'écria-t-il. Le bonhomme accourut au-devant de lui de toute la vitesse de ses grosses et courtes jambes et se jeta dans ses bras avec la même effusion que s'il eût été son fils. Mon oncle dit même avoir vu couler sur ses joues 2 grosses larmes qu'il cherchait à escamoter. Le vieux médecin, qui n'était pas d'un caractère moins fier et moins irascible que Benjamin, exultait d'allégresse. Arrivé chez lui, il voulut que pour célébrer la gloire de ce jour, les musiciens exécutassent des fanfares jusqu'au soir, et il leur ordonna ensuite de s'enivrer, ordre qui fut exécuté ponctuellement. Chapitre 11. Comment mon oncle aida son marchand de draps à le saisir. Cependant, Benjamin revint à Calamecy un peu inquiet de son audace. Mais le lendemain, le coureur du château lui remit de la part de son maître, avec une somme d'argent assez considérable, un billet ainsi conçu. Monsieur le marquis de Cambise prie monsieur Benjamin Rattray d'oublier ce qui s'est passé entre eux, et de recevoir, pour prix de l'opération qu'il a si habilement exécutée, la faible somme qu'il lui envoie.
« Oh ! dit mon oncle, après la lecture de cette lettre, ce bon seigneur voudrait acheter ma discrétion. Il a même l'honnêteté de la payer d'avance. C'est dommage qu'il n'agisse pas ainsi avec tous ses fournisseurs. Si je lui avais extrait tout simplement, tout vulgairement et sans aucun préliminaire, l'arête qui s'était plantée dans le gosier, il m'aurait mis 2 écus de 6 francs dans la main et m'aurait envoyé manger un morceau à l'office. La morale de ceci, c'est qu'avec les grands, il vaut mieux se faire craindre que de se faire aimer. Que Dieu me donne si de ma vie je manque à ce principe. Tout comme je n'ai pas l'intention d'être discret, je ne puis en conscience garder l'argent qu'il m'envoie comme salaire de ma discrétion. Il faut être honnête avec tout le monde ou ne pas s'en mêler. Mais comptons un peu l'argent qui est dans ce sac, voyons, ce qu'il paye pour l'opération et ce qu'il donne pour le silence. 50 écus, fichtre, le cambise est généreux. Il ne veut octroyer que 12 sous, sans garantie aucune de n'être pas bâtonné, au batteur en grange qui a son fléau au bout des bras depuis 3 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir. Et moi, il me paye 50 écus, un quart d'heure de ma journée. Et voilà de la magnificence. Pour l'extraction de cette arête, monsieur Maxi, tu t'exigeais 100 francs. Mais lui, il fait la médecine à un grand orchestre et à un grand spectacle. Il a 4 chevaux et 12 musiciens à nourrir. Pour moi, qui n'ai à entretenir que ma trousse et mon hypostase, une hypostase, il est vrai, de 5 pieds 9 pouces, 2 pistoles, c'est tout ce que cela vaut. Ainsi, de 150 au T20, c'est 13 pistoles à renvoyer au marquis. Encore, j'ai presque des remords de lui prendre son argent. Cette opération que je lui fais payer 20 francs, je voudrais pas pour 1000 francs. 1000 francs à prendre, bien entendu, après ma mort, ne pas l'avoir faite. Ce pauvre grand seigneur, comme il était chétif et rétréci devant moi, avec sa face pâle et suppliante, et son arête de saumon dans le gosier. Comme la noblesse faisait bien amende honorable dans sa personne au peuple représenté par la mienne. Il aurait volontiers souffert que je lui attachasse son écusson derrière le dos. S'il y avait alors dans son salon quelques portraits de ses aïeux, son front doit encore en être rouge de honte. Cette petite place où il m'a embrassé, je voudrais qu'après ma mort, on la défalquât de mon individu et qu'on la transférât au Panthéon. Quand le peuple aura un Panthéon, bien entendu. Mais, marquis, vous n'en êtes pas quitte pour cela. Avant 3 jours, le mariage sera votre aventure. Je veux même la faire raconter à la postérité par Miorato, notre faiseur de Noël. Il faut dire qu'il me fabrique à ce sujet une demi-main d'alexandrin. Pour ces 20 francs, c'est de l'argent trouvé. Bon, je ne veux pas qu'il passe par les mains de ma chère sœur. Demain, ce dimanche, demain donc, je donne aux amis, avec cet argent, un goûter comme je n'aurais jamais donné, un goûter qui sera payé comptant. Il est bon de leur apprendre comment un homme d'esprit peut se venger sans avoir recours à son épée. La chose ainsi arrangée, mon oncle se mit à écrire au marquis pour lui annoncer le retour de son argent. Je serais charmé de pouvoir donner à nos lecteurs un nouvel échantillon du style épistolaire de mon oncle. Malheureusement, sa lettre ne se trouve pas parmi les documents historiques que mon grand-père nous a conservés. Peut-être mon oncle, le marchand de tabac, en aura-t-il fait un cornet. Tandis que Benjamin était en train d'écrire, son marchand d'habits rouges entra avec une pancarte à la main. « Oh, que cela !» fit Benjamin, déposant sa plume sur la table. « Encore votre mémoire, monsieur Bontin, toujours votre éternelle mémoire. Eh, mon Dieu, voilà tant de fois que vous me le présentez, que je le sais par cœur. 6 zones d'écarlate au grand large. » N'est-ce pas, avec 10 zones de doublure et 3 garnitures de boutons ciselés?
Oui, c'est cela, monsieur Rattray, c'est bien cela.
total 150 livres 10 sous, 6 deniers. Que je sois exclu du paradis comme un gredin si je perds au moins 100 francs sur cette fourniture.
S'il en est ainsi, reprit mon oncle, pourquoi perdre encore de votre temps à griffonner tous ces vilains morceaux de papier? Mais vous savez bien, monsieur Bontin, que je n'ai jamais d'argent.
Je vois au contraire, monsieur Rattray, que vous en avez et que j'arrive dans un moment favorable. Voilà sur cette table un sac qui doit contenir à peu près ma somme. Et si vous voulez le permettre...
Un instant, dit mon oncle, portant rapidement la main sur le sac. Cet argent ne m'appartient pas, monsieur Bontin. Voilà précisément la lettre de renvoi que je viens d'écrire et sur laquelle vous m'avez fait faire un pâté. Tenez, ajouta-t-il en présentant la lettre au marchand, si vous voulez en prendre connaissance.
Inutile, monsieur Rattray, complètement inutile. Tout ce que je désirais savoir, c'est à quelle époque vous aurez de l'argent qui vous appartiendra.
Hélas, monsieur Bontin, qui peut prévoir l'avenir? Ce que vous me demandez, je voudrais le savoir moi-même.
Mais cela étant, monsieur Rattray, vous ne trouvez pas mauvais que j'aille de suite chez Parlanta le prévenir qu'il continue à poursuivre les poursuites commencées contre vous?
Oh, vous êtes de mauvaise humeur, respectable monsieur Bontin. Sur quelle rognure d'étoffe avez-vous donc marché aujourd'hui?
Bien, de mauvaise humeur, monsieur Rattray, vous conviendrez qu'on le serait à moins. Voilà 3 ans que vous me devez cet argent et que vous me remettez de mois en mois ce je ne sais quelle maladie épidémique que je ne vois pas arriver. Vous êtes cause que j'ai tous les jours des querelles avec madame Bontin, qui me reproche que je ne sais pas me faire payer et qui pousse quelquefois la vivacité jusqu'à me traiter de ganache.
Mais madame Bontin est assurément une dame fort aimable. Vous êtes fort heureux, monsieur Bontin, d'avoir une telle épouse. Et je vous prie de lui faire le plus tôt possible mes compliments.
Je vous remercie, monsieur Rattray, mais ma femme est, comme on dit, un peu grecque. Elle aime mieux l'argent que les compliments, et elle dit que si vous aviez eu affaire à mon confrère Colophèse, il y a longtemps que vous seriez à l'hôtel Boutron.
Que diable aussi ! S'écria mon oncle, furieux de ce que Bontin ne voulait pas lâcher pied. C'est de votre faute si je suis pas libéré envers vous. Tous vos confrères ont été ou sont malades. Du Thorin a eu 2 fluxions de poitrine cette année. Artichaut, une fièvre putride, Sergifère à les rhumatismes, Ratine à la diarrhée depuis 6 mois. Vous, vous jouissez d'une santé parfaite, je n'ai pas eu l'occasion de vous fournir une médecine. Vous avez une mine comme une de vos pièces de Nankin, et madame Bontin ressemble à une statue de beurre frais. Voilà ce qui m'a trompé. J'ai cru que vous seriez l'honneur de ma clientèle. Oh, si j'avais su alors ce que je sais, je vous aurais pas donné ma pratique.
Mais, monsieur Rattray, il me semble que ni madame Bontin ni moi ne sommes obligés d'être malades pour vous fournir les moyens de vous libérer.
Et moi, je vous déclare, monsieur Bontin, que vous y êtes moralement obligé. Et comment feriez-vous pour payer vos traites, vous, si vos clients ne portaient pas d'habits? Cette obstination à vous bien porter est un procédé abominable. C'est un guet-apens que vous m'avez tendu. Vous devriez, à l'heure qu'il est, avoir sur mon registre une note de 50 écus. Je vous déduis 130 francs, 10 sous, 6 deniers, pour les maladies que vous auriez dû faire. Vous conviendrez que je suis raisonnable. Vous êtes bien heureux d'avoir à payer la médecine sans avoir eu recours au médecin. Et j'en sais plusieurs qui voudraient bien être à votre place. Ainsi donc, si de 150 francs 10 sous 6 deniers, nous retranchons 130 francs 10 sous 6 deniers, c'est 20 francs que je vous redois. Bien, si vous les voulez, les voilà. Je vous conseille, en ami, de les prendre. Vous ne retrouverez pas de sitôt une pareille occasion.
Comme un conte, dit monsieur Bontin, je les prendrai volontiers.
Comme solde définitif de tout compte, reprit mon oncle. Et encore j'ai besoin de toute ma force d'âme pour vous faire ce sacrifice. Je destinais cet argent à un déjeuner de garçon. J'avais même l'intention de vous y inviter, quoique vous soyez père de famille.
Ah, voilà encore de vos mauvaises plaisanteries, monsieur Rattray. Jamais je n'ai pu obtenir que cela de vous. Vous savez bien pourtant que j'ai contre vous une saisie en bonne forme et que je pourrais faire exécuter de suite.
Eh bien, voilà précisément ce dont je me plains,
monsieur Bontin. Vous n'avez pas de confiance en vos habits.
Pourquoi vous faire des frais inutiles? Ne pouviez-vous venir me trouver et me dire « Monsieur Rattray, je suis dans l'intention de vous faire saisir » et je vous aurais répondu « Mais saisissez-vous-même, monsieur Bontin, vous n'avez pas besoin de huissier pour cela. Je vais vous servir de recors si cela peut vous être agréable. Et d'ailleurs, il en est encore temps. Saisissez-moi aujourd'hui, saisissez-moi à l'instant même, ne vous gênez pas. Tout ce que j'ai est à votre disposition. Je vous permets d'empaqueter, d'emballer, d'emporter tout ce qui vous conviendra ici. »
Quoi, monsieur Rattray, vous seriez assez bon.
Mais comment donc, monsieur Bontin? Mais enchanté d'être saisi par vos mains. Je vais même vous aider à me saisir.
Mon oncle ouvrit alors une vieille masure de commode à laquelle pendait encore un clou quelques loques de cuivre doré, et tirant deux ou trois vieux rubans de queue d'un tiroir,
« Tenez, dit-il à Bontin, en les lui présentant, vous perdrez pas tout. Ces objets ne compteront pas dans le total, je vous les donne par-dessus le marché. »
« Ouais, répondit monsieur Bontin.
Ce portefeuille en maroquin rouge que vous voyez, c'est ma trousse. »
Comme monsieur Bontin allait mettre la main dessus.
« Oh, tout beau, dit Benjamin. La loi ne vous permet pas de toucher là. Ce sont les outils de ma profession et j'ai le droit de les conserver. »
« Pourtant, fit monsieur Bontin.
Voilà maintenant un tire-bouchon à manche d'ébène et incrusté d'argent. Pour cet objet, ajouta-t-il en le mettant dans sa poche, oh, je le soustrais à mes créanciers, et d'ailleurs, j'en ai plus besoin que vous.
Mais, répliqua M. Bontin, si vous gardez tout ce dont vous n'avez plus besoin que moi, je n'aurai pas besoin de charrette pour apporter mon butin.
Un instant, fit mon oncle, vous ne perdrez rien pour attendre. Tenez, voilà sur cette planche de vieilles fioles à médecine, dont quelques-unes sont fêlées. Je n'en garantis pas l'intégrité, je vous les abandonne avec toutes les araignées qui sont dedans. Sur cette autre planche est un grand vautour empaillé, il ne vous coûtera que la peine de l'aller dénicher, il pourra très bien vous servir d'enseigne.
Monsieur Rattray, fit Bontin.
Oh, ceci, c'est la perruque de noces de Machecourt, qui se trouve là où je ne sais comment. Je ne vous l'offre pas parce que je sais que vous ne portez encore qu'un faux toupet.
Mais qu'en savez-vous, monsieur Rattray? S'écria Bontin de plus en plus irrité.
Voici dans ce bocal, poursuivit mon oncle avec un sang-froid imperturbable, un verre solitaire que j'ai conservé dans l'esprit de vin. Vous pourrez vous en faire des jarretières à vous, à madame Bontin et à vos enfants. Je vous ferai d'ailleurs observer qu'il serait dommage de mutiler ce bel animal. Vous pourrez vous vanter d'avoir chez vous l'être le plus long de la création, sans excepter l'immense serpent boa. Vous le coterez du reste que vous voudrez.
Décidément, vous vous manquez de moi, monsieur Rattray. Mais tout cela n'a pas la moindre valeur.
Mais je le sais bien, dit froidement mon oncle. Aussi, vous n'avez pas de record à payer. Tenez, voilà par exemple un objet qui vaut à lui seul toute votre créance. C'est la pierre que j'ai extraite il y a 2 ou 3 ans de la vessie de monsieur le maire. Vous pourrez la faire ciseler en forme de tabatière quand on aura mis alentour un cercle d'or et qu'on y aura ajouté quelques pierres fines. Ce sera un joli cadeau à offrir à Madame Bontemps pour le jour de sa fête. » Bontemps, furieux, fit un pas vers la porte. « Un instant, » dit mon oncle, l'arrêtant par un pan de son habit. « Comme vous êtes pressé, monsieur Bontemps. Je ne vous ai encore montré que la moindre partie de mes trésors. Tenez, voici une vieille gravure représentant Hippocrate, le père de la médecine. Je vous garantis la ressemblance. Plus 3 volumes dépareillés de la Gazette médicale qui feront vos délices pendant ces longues soirées d'hiver. »
Et encore une fois, monsieur Rattray.
Eh mon Dieu, ne vous fâchez pas, papa Bontemps. Vous voici arrivé à l'objet le plus précieux de mon mobilier.
Mon oncle ouvrit alors une vieille armoire et en tira les 2 habits rouges qu'il jeta aux pieds de monsieur Bontemps, et desquels il s'échappa un nuage de poussière qui fit tousser le bon négociant, avec un essaim d'araignées qui s'éparpillèrent par la chambre.
« Tenez, lui dit-il, voilà les 2 derniers habits que vous m'avez vendus. Vous m'avez outrageusement trompé, monsieur Fontin. Ils se sont fanés dans l'espace d'un matin, comme 2 feuilles de rose. Et ma chère sœur n'a pu seulement les utiliser pour teindre des œufs à Pâques à ses enfants. Vous mériteriez bien que je vous fisse une déduction de la couleur. »
Oh, pour le coup, s'écria monsieur Bontemps horripilé, voilà qui est trop fort. Oh, jamais on ne s'est montré plus insolemment d'un créancier. Demain matin, vous aurez de mes nouvelles, monsieur Rattray.
Tant mieux, monsieur Bontemps. Je serai toujours charmé d'apprendre que vous êtes en bonne santé. À propos, oui, monsieur Bontemps. Et vos rubans de queue que vous oubliez. Comme Bontemps sortait, entra l'avocat Page. Il trouva mon oncle qui riait aux éclats.
« Qu'as-tu donc fait à Bontemps ?» lui dit-il.
« Oh, je viens de le rencontrer sur l'escalier, presque rouge de colère. Il est dans une crise si violente d'exaspération qu'il ne m'a même pas salué en passant. »«
Ce vieil imbécile, » dit Benjamin, « ne se fâche-t-il pas contre moi parce que je n'ai pas d'argent ? Comme si cela ne devait pas me contrarier plus que lui.
Tu n'as pas d'argent, mon pauvre Benjamin. Tant pis, 2 fois tant pis. Car je venais te proposer un marché d'or.
Pauvreuse toujours, dit Benjamin.
Oui, c'est le vicaire Diarcos qui veut se défaire d'un quart de Bourgogne dont une de ses béates lui a fait présent. Parce qu'il a un catarrhe et que le docteur Arnoux l'a mis à la tisane. Et comme le régime sera long, il a peur que son vin ne se gâte. Il destine cet argent à mettre dans ses meubles un pauvre jeune orpheline qui vient de perdre sa dernière tante. Ainsi, en même temps qu'un bon marché, c'est une bonne action que je te propose.
Oui, dit Benjamin, mais sans argent. C'est pas chose facile à faire qu'une bonne action. Les bonnes actions sont chères, et n'en fait pas qui veut. Cependant, mais quelle est ton opinion sur le vin ?
Exquis, dit Page, faisant claquer sa langue contre son palais.
Oh, il m'en a fait goûter, c'est du baume de première qualité.
Et combien le vertueux d'Iarcos en veut-il ?
25 francs, dit Page.
Oh, moi, je n'ai que 20 francs. Si tu veux le donner pour 20 francs, c'est un marché conclu. Alors, nous goûterions à crédit.
Ah non, c'est 25 francs à prendre ou à laisser. 25 francs pour retirer une pauvre orpheline de la misère et la préserver du vice. Tu conviendras que ce n'est pas trop.
Mais si tu avais 5 francs, toi, Page, reprit mon oncle, ben nous l'achèterions à nous deux.
« Hélas, dit Page, il y a bien 15 jours que j'ai rien vu un pauvre écu de 6 francs. Je crois que le numéraire a peur de monsieur de Calonne. Il se retire.
Et c'est pas toujours chez les médecins, dit mon oncle. Alors, si, il ne faut plus penser à ton carto. »
Pour toute réponse, Page poussa un gros soupir. En ce moment arriva ma grand-mère, portant, comme un enfant Jésus, un gros rouleau de toile entre ses bras. Elle posa sa toile avec enthousiasme sur les genoux de mon oncle. « Tiens, Benjamin, lui dit-elle, je viens de faire un superbe marché. J'ai avisé cette toile ce matin en faisant un tour de foire. Tu as besoin de chemise et j'ai jugé qu'elle te convenait. Madame Avril a donné 75 francs. Elle a laissé partir le marchand, mais j'ai bien vu, à la manière dont elle le reluquait, qu'elle avait l'intention de le rappeler. Voyons votre toile, ai-je dit de suite au paysan. Je lui en ai donné 80 francs. Je croyais pas qu'il me la laisserait pour le prix. La toile vaut 120 francs comme un liard. Et Madame Avril est furieuse contre moi de ce que je suis allé sur son marché. Et cette toile, s'écria mon oncle, vous l'avez achetée, achetée ? Oui, achetée, dit ma grand-mère, qui ne concevait rien à l'exaspération de Benjamin. Il n'y a plus moyen de s'en dédire. Le paysan est en bas, qui attend son argent. Eh bien, allez-vous-en au diable, s'écria Benjamin, en jetant le rouleau par la chambre. Vous et... Oh, c'est-à-dire, pardon, ma chère sœur, pardon, non, n'en allez pas au diable, c'est trop loin. Mais allez porter de votre toile au marchand, j'ai pas d'argent pour le payer.
Et l'argent que tu as reçu ce matin de monsieur de Cambise, fit ma grand-mère.
Mon Dieu, mais cet argent n'est pas à moi, monsieur de Cambise me l'a donné de trop.
Comment de trop ? Reprit ma grand-mère, regardant Benjamin avec des yeux ébahis.
Eh bien oui, de trop, ma chère sœur, de trop, entendez-vous, de trop. Il m'envoie 50 écus pour une opération de 20 francs. Comprenez-vous à cette heure ?
Et tu es assez niais pour lui renvoyer son argent. Oh, si mon mari m'avait fait un pareil tour.
Oui, j'ai été assez niais pour cela. Que voulez-vous ? Tout le monde ne peut pas avoir l'esprit que vous exigez de Mâchecourt. J'ai été assez niais pour cela, je m'en repens pas. Je ne veux pas me faire charlatan pour vous plaire. Mon Dieu, qu'on a de peine ici-bas pour rester honnête homme. Vos plus proches et vos plus chers sont pourtant les premiers à vous induire en tentation.
Mais malheureux, tu manques de tout. Tu n'as plus une paire de bas de soie qui soit mettable. Et tandis que je raccommode tes chemises d'un côté, elles tombent en loques de l'autre.
Et parce que mes chemises tombent en loques d'un côté pendant que vous les raccommodez de l'autre, il faut que je manque à la probité, n'est-ce pas, ma chère sœur ?
Mais tes créanciers, quand les paieras-tu ?
Ben quand j'aurai de l'argent. Voilà tout. Je défie le plus riche de faire mieux.
Et le marchand de toile, que lui dirais-je ?
Ben, dites-lui tout ce que vous voudrez, dites-lui que je ne porte pas de chemise ou que j'en ai 312 dans mes armoires. Il choisira celle de ces deux raisons qui lui conviendra le mieux.
Ben, mon pauvre Benjamin, dit ma grand-mère en emportant sa toile, avec tout ton esprit, tu ne seras jamais qu'un imbécile.
Au fait, dit Page, quand ma grand-mère fut au bas de l'escalier, ta chère sœur a raison. Tu pousses la probité jusqu'à la niaiserie. Mon oncle se leva avec vivacité et, serrant le bras de l'avocat dans sa main de fer, alla faire crier.
Page, lui dit-il, mais cela n'est pas simplement de la probité. C'est un noble et légitime orgueil. C'est du respect, non seulement pour moi-même, mais encore pour notre pauvre caste opprimée. Veux-tu que je laisse dire à ce hobereau qu'il m'a offert une espèce de pourboire et que j'ai accepté ? Qu'il nous renvoie à eux dont l'écusson n'est qu'une plaque de mendiant, ce reproche de mendicité que nous leur avons si souvent adressé ? Que nous leur donnions le droit de proclamer que nous aussi nous recevons l'aumône quand on veut bien nous la faire ? Écoute, page, tu sais si j'aime le Bourgogne. Tu sais aussi, d'après ce que vient de dire ma chère sœur,
si j'ai besoin de chemises. Mais pour tous les vignobles de la Côte d'Or et toutes les chènevières des Pays-Bas, je voudrais pas qu'il y eût dans le bailliage un regard devant lequel le mien dût s'abaisser. Non, non, je ne garderai pas cet argent quand il le faudrait pour racheter ma vie. C'est à nous, hommes de cœur et d'instruction, à faire honneur à ce peuple au milieu duquel nous sommes nés. Il faut qu'il apprenne par nous, qu'il n'ait pas besoin d'être noble pour être homme, qu'il se relève par l'estime de lui-même de l'abaissement où il est descendu, et qu'il dise enfin à cette poignée de tyrans qui l'opprime, « Mais nous valons autant que vous, et nous sommes plus nombreux que vous. Pourquoi continuerions-nous à être vos esclaves ? Et pourquoi voudriez-vous rester nos maîtres ? Oh, page, puis-je, sais-je voir ce jour, et boire de la piquette le reste de ma vie ?»« Voilà qui est bel et bon, dit page. Mais tout cela ne nous donne pas de Bourgogne. Sois tranquille, ivrogne, tu n'y perdras rien. Dimanche, je vous donne à goûter à tous avec ces 20 francs que j'ai retirés du gosier de M. Cambyse. Et au dessert, je vous raconterai leur histoire. Je vais écrire de suite à M. Minxit. Je ne puis voir Artus, attendu que je n'ai que 20 francs à dépenser. Ou bien il faudrait qu'il voulût dîner copieusement ce jour-là, mais si tu rencontres avant moi Rapin, Parlantin et les autres, préviens-les, afin qu'ils ne s'engagent pas ailleurs. Je dois dire de suite que ce goûter fut ajourné à 8 aines, parce que M. Minxit ne put se trouver au rendez-vous, puis indéfiniment remis, parce que mon oncle fut obligé de se séparer de ses 2 pistoles.